Et tout de suite, on va parler du festival de la Chaise-Dieu. Et oui, il faut bien cet air pour accompagner Pierre qui nous rend visite. Bonjour Pierre.
Bonjour Jacques.
Alors, les nouvelles, on commence bien sûr par ce qui s'est passé hier à la Chaise-Dieu. Oui. Ça commence à... c'était à 14h30.
14h30 à l'Abbatiale, concerto en sol de Ravel. Mais vous allez nous en parler, mon cher Jacques.
Voilà, j'y étais. Comme je suis un très grand spécialiste de la musique classique, j'ai bien apprécié. Oui, ça, c'est pas souvent que j'étais à la Chaise-Dieu. J'en ai profité. Grâce d'ailleurs au festival Mélodie sur Arzon qui avait offert des places. Donc j'ai profité de cette place dans le chœur et puis j'ai assisté au concerto en sol de Ravel. Donc il y avait une pièce au départ orchestrale.
Oui.
Avec un chef que vous pouvez nous en dire deux mots.
Daniel Kafka est bien connu à la Chaise-Dieu. Il est venu avec différents orchestres. Oui. C'est un Lyonnais ou Lyonnais d'origine. Il a des liens à Lyon.
Oui.
C'est un excellent chef d'orchestre, un excellent meneur d'orchestre en plus. Je veux dire, il n'est pas seulement directeur sur le coup. L'orchestre Ose, c'est sa création.
Ouais.
C'est un orchestre, on va dire, pas de rencontre, mais c'est quand même un orchestre de festival, mais un orchestre qui fonctionne remarquablement bien. Je ne sais pas si vous avez trouvé.
Oui. C'est vraiment.
De lui-même, dans le tombeau de Couperin de Ravel, c'était quand même une première partie Ravel à 100%. Le tombeau de Couperin, l'orchestre a montré toutes ses qualités, toute sa souplesse, surtout que le tombeau de Couperin, c'est des pièces assez méditatives. Je rappelle aux auditeurs qu'un tombeau, c'était des pièces qu'écrivaient les compositeurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, en général, en mémoire d'un de leurs prédécesseurs morts. Le tombeau de Marin Marais, le tombeau de Monsieur de Sainte-Colombe, etc.
D'accord, donc là c'était celui
écrit par des successeurs d'autres musiciens. Et Ravel a voulu, je crois que c'est une pièce qui date de tout de suite après la guerre de 14, mais je dis peut-être une bêtise, il a voulu écrire un tombeau pour Couperin. Je crois que c'était, il y a une histoire d'anniversaire ou 200e anniversaire de sa mort ou quelque chose comme ça.
D'accord.
Il a fait une pièce, pas du tout, pas dans le style, mais dans l'esprit des tombeaux du XVIIIe siècle et du XVIIe siècle. C'est une pièce très belle, je l'ai dit, méditative, calme.
Très mélodique, très calme.
Oui,
voilà.
Et l'orchestre excelle dans ce genre de choses. Ensuite, le jeune pianiste Vincent Lardré est arrivé, un grand jeune homme.
Grand et mince.
Plutôt beau gosse. Hein.
Oui, grand et mince.
Et là, il a pris le pouvoir. Ça arrive, et surtout que c'est une pièce qui s'y prête bien parce que le piano, non seulement discute avec l'orchestre, mais de temps en temps domine l'orchestre.
Ouais, ouais.
Et là, il l'a fait avec beaucoup d'autorité.
D'ailleurs, il transpirait, j'ai remarqué qu'à un moment, il s'était essuyé.
On ne s'imagine pas.
C'est vrai qu'il a.
C'est
physique. Il a fait une prestation assez physique.
Il faut le faire. Il n'est jamais sans rien faire, pratiquement jamais. Et le premier mouvement donc était exactement ce qu'on en attendait. On connaît ce concerto en sol qui a été écrit, lui, alors ça j'en suis sûr, tout de suite après la guerre de 14, 1920 ou quelque chose comme ça, en même temps que le concerto pour la main gauche. Il a écrit les deux concertos en même temps. Et de celui-ci, il a dit, l'autre est pour la main gauche, mais celui-ci n'est sûrement pas que pour la main droite. Ouais. Et effectivement, les mains passent leur temps à se promener l'une sur l'autre. C'est assez impressionnant à voir. Je le connaissais à écouter. C'est la première fois que je le vois jouer.
C'est vrai que
s'imagine pas la complexité pour le pianiste. Le deuxième mouvement, il l'a pris. Alors, il nous a un peu surpris. Il l'a attaqué très sec, si on peut dire. Et en fait, c'est une vision qui en vaut une autre. Il est peut-être moins tranquille, moins réservé que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il faut que je réécoute.
Donc il l'a fait à sa manière, vous pensez? Il l'a fait un peu plus...
Oui, il a un peu plus frappé.
Un peu plus frappé.
Et puis le dernier
mouvement,
alors là c'est l'emballement total, c'est de la folie furieuse. Voilà. C'est pas de la folie furieuse, c'est chez Ravel, tout est toujours maîtrisé. Il y a pas de, il s'abandonne pas. Et le pianiste, a, forcément, c'est pas abandonné. Enfin, il a fait un bel, un très très beau concert. Il a donné un très beau bis que j'ai pas reconnu.
Oui, c'est vrai, il est revenu après.
J'hésite à dire une estampe de Debussy, mais franchement, j'ai pas. Je vous dirais une bêtise. Alors, si quelqu'un le sait, qu'il appelle Radio Craponne, si quelqu'un l'a reconnu, il l'a pas annoncé son bis.
Voilà.
Même s'il avait annoncé, j'aurais rien compris. J'entends mal.
Voilà. Bon. Puis il n'avait pas de micro. Voilà. Mais bon, peut-être que.
En deuxième partie, là, une symphonie de Sibelius. Mm-hmm. La sixième, donc pas la deuxième comme annoncé sur le petit programme.
D'accord.
Sibelius, alors c'est un. Ce brave homme, en même temps, pendant que l'école de Vienne s'est soufflée dans une dodécaphonie qui était une impasse musicale, comme le cubisme et le nouveau roman, entre autres, impasse artistique du XXe siècle.
Oui, oui.
Lui, il a fait de la musique, des symphonies, il en a fait 7 et probablement détruit une 8e. Il a écrit des musiques que d'aucuns qualifient parfois, comment dire, de néoclassiques, avec un tout petit peu de mépris. Eh ben non, c'est pas méprisable, c'est une très belle musique. Il utilise toutes les ressources de la tonalité et de la tonalité à tonalité par moment. C'est une musique qu'on a qualifiée de froide. Oui, je veux bien. Je dis, c'est surtout parce qu'il était finlandais.
D'accord.
À part ça, non, c'est pas que, une musique si froide que ça. Mais elle est tranquille. Je vais redire le mot, je vais me répéter, méditative. Est très belle.
Excusez-moi Pierre, parce que bon, moi je suis un peu un néophyte dans le genre, mais moi cette symphonie de Sibelius m'a rappelé des musiques de films. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs d'aujourd'hui qui, même pour les Disney, pour des dessins animés, ont repris ce style un petit peu méditatif. On imagine des choses, des oiseaux qui volent, des trucs, des cette musique de film. D'aujourd'hui, en fait, que beaucoup de films reprennent. Ouais.
Mais il n'est pas impossible que des compositeurs de musique de films se soient inspirés de Sibelius.
Oui, je pense qu'ils sont bien inspirés.
Il n'est pas impossible non plus que certaines musiques de Sibelius aient servi de musique de films.
Oui, c'est possible.
Je pense à Finlandia, entre autres.
Ça m'a rappelé souvent des films américains, d'ailleurs.
Si un truc qui est bien sur Wikipédia, et j'espère fiable, c'est que souvent, quand on cite une musique... Mmh. On appelle l'article concernant une pièce de musique. Il vous donne les films souvent.
Souvent a été utilisé dans tel film. Donc ça sera à voir. Mais moi, ils se sont beaucoup inspirés de lui.
Non, mais c'est une très belle musique. Hein. Sibelius. Alors en plus, ce type-là, il buvait comme un trou. Mais il est mort. Il est mort très vieux, confit dans l'alcool. Mais à 1 litre de vodka par jour, tranquille.
Bien.
Il pouvait. Ça n'empêchait pas de faire des musiques super.
Bon.
Voilà. Donc, c'est ridicule de mettre des notes.
Oui, bien sûr, mais c'est un petit peu.
On met des sports.
On dit ça pour rire un peu, mais bon, pour l'instant, c'est de bon aussi. Oui. Ouais.
Pour l'instant, pour la chaise Dieu, c'est un sans faute.
C'est un sans faute.
À part la faute, mais qui n'est pas imputable à la programmation. La faute de la chambre cacophonique, la première partie du concert.
Voilà, alors sinon, Pierre, est-ce que vous avez été le soir?
Je suis allé voir la vedette.
Vous êtes retourné.
Si on en croit le progrès, il n'y a que ça.
Il n'y
a que Capuçon au Festival de la Chaise-Dieu. Heureusement, il y a eu beaucoup d'autres choses. Renaud Capuçon est un très grand violoniste, très bon en tout cas. Une vedette, c'est certain. On ne peut pas ouvrir une des chaînes musicales de la télé sans tomber sur Renaud Capuçon. Il est avec son frère Gauthier, ils font une belle équipe. Lui plus vedette que son frère peut-être. Il a rempli son contrat. Il est arrivé d'abord très simplement. Il n'y a pas de fioriture, pas d'emphase. Oui. Il a joué donc le concerto en la mineur pour violon de Bach. Il faut dire qu'il était avec un orchestre de chambre et que l'orchestre était pour le Bach en formation réduite, juste quelques cordes et violon par 4 et violoncelle par 2, une contrebasse. Et un clavecin. Et il a joué sur instrument moderne, heureusement. Il a joué comme on doit jouer Bach, sans faire de cinéma. Ensuite, on est arrivé dans des musiques plus récentes, mais qui sont pas sans lien avec Bach, effectivement. Polyptyque pour deux orchestres à cordes et violons solo. Alors, les deux orchestres à cordes, effectivement, ils avaient séparé l'orchestre en deux, un peu renforcé. Et c'est une musique, j'avais déjà entendu du Franck Martin, c'est un Suisse, donc c'est normal pour l'orchestre de Bâle de jouer Franck Martin, qui a vécu au XXe siècle, il a été, avec Honegger, il y a aussi un deuxième Suisse, donc un Suisse roman et un Suisse allemand, qui ont quand même été dans des figures majeures de la musique du XXe siècle. Et je ne connaissais pas ce polyptyque, c'est très très beau là aussi. C'est assez varié dans la tonalité, dans le rythme. C'est sept morceaux qui ont des noms qui font référence à la Bible et aux évangiles, plus exactement. Et une heureuse découverte. Une heureuse découverte. Et l'orchestre de Bâle, je le mettrai dans le genre orchestre de chambre, c'est-à-dire à prédominance de cordes. Et là, il n'y avait que des cordes. Je le mettrais sur le même plan que l'orchestre d'Auvergne. C'est-à-dire qu'on frise la perfection, tellement l'unisson des cordes est bon, tellement la fusion des sons est réalisée. Les instrumentistes sont sûrement très bons, mais ils se fondent. Et ça, c'est merveilleux.
Ils ne font pas leur vedette chaque... Tout le monde joue pour l'orchestre.
Ouais, pardon. Ouais. Ça s'est remarqué surtout dans cette pièce de Franck Martin, assez complexe dans la polyphonie. Ensuite, des fantaisies sur le nom de Zacher de Philippe Hersant. Alors, Zacher, c'était un mécène de l'orchestre, un mécène balois, qui a commandé des tas de pièces de musique aux compositeurs de son temps. Donc c'était quelqu'un de très intéressant pour la musique. Et je l'ai déjà dit hier, je crois, ça veut dire que c'est composé sur la notation allemande de la musique.
Avec les lettres.
A, B, C, D, E, F, etc. Donc c'était une transcription pour orchestre à cordes. Je ne sais pas quel est l'original, si c'est pour orchestre tout court ou pour piano. Je confesse que j'aurais dû m'enseigner avant de venir, mais j'ai eu quelqu'un.
On vous pardonnera.
Très varié, très rythmé parfois, très langoureux parfois. Hersant est un très bon compositeur, il est vivant, tant mieux pour lui. Il a été un moment chroniqueur à France Musique et je pense qu'il vit fort bien de sa musique maintenant, et c'est tant mieux. Très belle musique, moderne, contemporaine, pas choquante comme ça arrive, belle musique. Et enfin, Les Métamorphoses de Richard Strauss. Là, on est dans d'aucuns dans mes voisins disaient langoureux. Non, moi je dis pas langoureux. Je reviens sur le sensible. Je reprends le mot méditatif. Tant pis.
Oui.
C'est une musique et métamorphose parce que elle se métamorphose en permanence. Elle change tout le temps. Elle commence sur deux violons pianissimo et elle se termine sur deux violons pianissimo. Et entre-temps, elle a changé tout le temps.
Ah oui, d'accord.
En continu. C'est un glissement progressif du plaisir, comme disait... qui est-ce qui disait ça ? Kundera, c'est un roman de Kundera. C'est une musique qu'il faut écouter en permanence. Si jamais vous commettez l'erreur de vous endormir pendant le truc, vous êtes paumé. Parce que ça change tout le temps. Ça change, ça enfle, ça redécroît et ça se termine comme ça a commencé. Une très belle musique.
Donc encore une réussite, si j'ai bien compris.
Encore un concert où j'aurais dû mettre 10 sur 10 si n'avais perdu l'habitude
de noter.
Donner des notes.
Donc ça, c'était hier.
À la Vaudieu, un concert qui était intéressant, mais on ne pouvait pas être partout. Et je pense qu'il y avait beaucoup de monde aussi à la Vaudieu, parce que j'ai vu des gens qui m'ont dit « on va plutôt à la Vaudieu ». Et les huiles, on va dire les personnalité,
oui,
était plutôt à la Vaudieu. Il n'y avait personne hier dans la Bastiale.
Alors aujourd'hui, que va-t-il se passer du côté de la Chaise-Dieu, où il fait frais dans l'abbatiale, donc heureusement, parce que les après-midi sont chauds. Alors,
oui, mais au Moyen-Âge, ils n'étaient pas bêtes, ils climatisaient les
ah ouais, églises. Ouais, 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 ils faisaient frais.
Si, une nouvelle importante à propos d'hier, les chauves-souris sont revenus en force.
Ah!
Ah oui, non, mais je désespérais depuis le début du festival, on envoyait une par-ci par-là,
oui.
Qui pointait un bout d'aile, qui redisparaissait tout aussi.
Le net. Retour des
alors
chauves-souris.
Alors là, hier, on a eu la danse des chauves-souris.
C'était pas la danse macabre, c'était la danse des chauves-souris.
Non, mais voilà, elles aimaient Capuçon, peut-être.
Oui, peut-être que...
Ou je pense que ça, les lumières au-dessus de l'orchestre attirent des insectes, à mon avis, et voilà. Qu'elles se nourrissent.
Voilà.
Bon, bref.
Donc aujourd'hui, à 14h30... à la cour des Médicis.
Avec l'ensemble Pygmalion, qui est aussi un habitué du festival, dirigé par Raphaël Pichon. Un programme, alors vraiment, Renaissance en plein, avec Claudio Monteverdi, Cavalieri, Marenzio, Jacopo Peri, etc. Voilà. Etc.
Alors, on n'est plus dans le contemporain.
Hein, on est dans le contemporain de la Renaissance.
De la Renaissance.
ce qu'il faut se dire, c'est que certaines musiques... à l'époque, ont été accueillis par des huées. Hein.
Ah bah bien sûr, chaque fois qu'il y a eu de la nouveauté, un changement, les gens
Beethoven s'est fait traiter de fou avec sa 7e symphonie, de dingue, par son confrère Weber, cousin de la femme de Mozart, etc.
Bon, enfin bref.
Il a... et puis tout, donc je suppose qu'à Renaissance, ils ont été sifflés, à l'époque on sifflait Monteverdi. Peut-être on remet 5 coups de poignard au passage, mais enfin bon, bref. Ensuite, à l'abbatiale, toujours... le Magnificat de Bach par l'ensemble Academia. Mmh. C'est alors Bach, quoique luthérien, piétiste, a composé une musique sur un texte qui est quand même plutôt c'est le chant de la Sainte Vierge qu'elle prononce quand elle se sent enceinte. Et la dévotion à Marie ne faisait pas partie des critères du luthéranisme. Mmh. Mais il a aussi composé une messe.
Ben oui, elle, enfin, quand Bach, on pense église, hein, c'est ça.
Oui,
donc,
mais c'était
finalement,
quand même
si lui n'était rien
piétiste, c'est-à-dire de stricte obédience. Ceci dit, dans les rites luthériens, au départ, la messe existait. Mmh. Il y avait une messe.
D'accord.
Je ne sais plus ce qu'il y avait en moins, mais il y avait une messe authentique. Voilà, donc c'est pas, il n'y a rien de choquant. Et puis une ode funéraire... donc le Magnificat en ré majeur et une ode funéraire BWV 198, donc une œuvre, je dirais récente, enfin de sa jeunesse.
D'accord.
À Saint-Julien, mais encore une fois on peut pas être partout.
À Brioude, donc.
À Brioude, le concert de la loge et Julien Chauvin donne un Stabat Mater de Boccherini. Alors celui-ci manque à ma collection. J'ai une collection de Stabat Mater, croyez-le ou non. Mais pas celui-ci, donc il va falloir que je l'ajoute. Des Lamentations du Jeudi Saint de Francesco Corselli et Papa Haydn, Joseph, Symphonie d'Église, numéro 34. Boccherini, c'est un compositeur du XVIIIe siècle, classique, contemporain pratiquement de Beethoven, on va dire, différent, classique, italien. Haydn en connaît, il a survécu à Mozart, à Beethoven. Et Francesco Corselli, on découvrira quand on ira.
Voilà. En plus, je vois que c'est la basilique Saint-Julien. Et donc,
ah oui,
Julien Chauvin devrait être. Sera au violon et la direction.
Ah bon?
Eh oui.
Ah ben oui, j'avais pas
oui, vous ensemble. M'avez dit, oui, c'est pour
mais
ça.
Le concert de la loge, alors là.
C'est la basilique Saint-Julien là-bas.
Je ne connais pas le concert de la loge, donc je ne me souviens pas de l'avoir vu à la Chaise-Dieu. Peut-être qu'il est venu, il m'a échappé.
Bon,
il beaucoup m'échappe. Hein. Et en plus, le site de l'église, la basilique Saint-Julien est magnifique.
Ah, c'est magnifique.
Une basilique romane, une des plus belles de France. Une des plus belles d'Auvergne et une des plus belles de France.
On peut le dire. Voilà, et un beau programme.
Un très beau programme qu'on vous racontera demain matin, si Dieu nous prête vie.
Merci Pierre. Donc vous irez donc normalement aux deux concerts de la Chaise-Dieu. Vous nous en rendrez compte demain.
Oui.
Ça marche. Merci.
De